Je me suis beaucoup posé de questions pour savoir comment j'allais faire pour remercier de cette invitation, parce que je joue ici le rôle de profane, ou peut-être le rôle de candide. J'avais presque envie d'organiser une atmosphère de compassion à mon égard, puisque je ne connais rien à la guerre de 14, ce qui évidemment me met dans une situation qui est un petit peu ambiguë. C'était donc Antoine Pro qui était le discutant ce matin, et aujourd'hui c'est moi. Là aussi, c'est une position qui est un petit peu difficile à soutenir de ma part, donc je vais essayer de faire ce que je peux pour essayer de problématiser comme je peux problématiser. La dernière expérience de lecture que j'avais ce week-end encore de la guerre de 14, c'était un manuel mon manuel de première, c'était déjà il y a quelques années, il me semble que c'était un manuel de 1982, et où justement il y avait un petit encart sur les mutineries 17, et où, il me semble que c'était la première fois, c'est ce que me disait Philippe, pardon, à propos de mutinerie 17, c'était la première fois, je crois, qu'on enseignait les mutineries 17 au niveau première, me semble-t-il, non, c'est pas la première fois, et où donc ces mutineries étaient présentées comme c'était vraiment les mutineries souffrance, en quelque sorte, c'était la souffrance patriotique qui était mise en scène dans ce petit encart. Et donc, il m'arrive de temps en temps de dire des bêtises. Aujourd'hui, je vais avoir un alibi qui est absolument extraordinaire. C'est que comme je n'y connais rien, vous ne pourrez pas forcément pouvoir me le reprocher. Donc, je ne vais pas revenir sur des faits, évidemment. Je vais essayer de revenir sur des processus sociaux qui me semblent être constitutifs de l'ensemble des papiers. J'adhère en général à peu près à toutes les contributions. J'ai trouvé ça absolument passionnant, pour tout dire, de lire de manière lente ce qui se trame pendant cette période. Je ne parle pas encore d'événements, je vais parler tout à l'heure d'événements, mais on a une espèce d'effet de puzzle qui n'en est pas un, puisque on arrive très facilement à passer de contributions qui se parlent et d'essayer de faire en sorte qu'elles puissent se répondre les unes aux autres. Mais on sent bien qu'il y a, dans ces différentes contributions, il y a de la tractation, il y a de la domination, il y a tout un tas d'éléments qui me paraissent être particulièrement importants à mettre en perspective. Et pour tout dire, la petite culture historienne que j'ai, et qui fait que j'ai essayé très lentement de rentrer dans le monde qui est le vôtre, c'est-à-dire le monde des chercheurs sur la guerre de 14, était une culture qui faisait référence, d'une certaine manière, à l'idée de culture de la haine. Et j'ai eu une lecture qui n'est pas très ancienne de Peter Gay, notamment, et avec un livre qui s'appelle « La culture de la haine », et où on fait notamment référence à une période qui est antérieure à celle de la guerre de 14, et où il revient sur les fantasmes, sur les hypocrisies de la bourgeoisie. Je pourrais revenir aussi sur le bouquin de Susanna Barrow, qui s'appelle « Miroir déformant », où on voit bien qu'on est dans une période antérieure à la guerre, où des formes assez inédites de rencontres sociales, par l'intermédiaire de l'école de la République, par l'intermédiaire du service militaire, vont s'opérer. Et que ces rencontres sociales-là vont donner lieu, effectivement, à des discours qui sont des discours de haine sociale et de mépris social. Et pour moi, vous le voyez, la culture de la haine, c'était ça, donc c'est une culture de... cette culture de la haine était aussi une culture de classe, etc. Il me semble qu'elle s'enchasse dans la façon dont nous pourrions comprendre l'histoire de l'armée au moment qui, ici, nous intéresse. Alors, j'avais beaucoup d'appréhension quand j'ai commencé à lire les papiers, parce que j'avais tout simplement peur de ne pas tout comprendre. J'avais peur de ne pas tout comprendre, tout simplement parce que j'ai une légitimité relativement faible lorsqu'il s'agit de parler de l'institution militaire. J'ai, comme une partie d'entre vous, une expérience qui a produit chez moi un enthousiasme mesuré, je veux dire, qui est celle du service militaire, mais qui m'a permis d'apprendre qu'il existe des rituels, qu'il y a des institutions, qu'elles sont extrêmement bien organisées, qu'elles sont très huilées, et qu'elles produisent quelque chose. Et qu'elles produisent quelque chose de très fort. Et je trouve que considérer la puissance et la force de cette institution, c'est se donner les moyens de faire une sociologie de l'emprise. Et tout ce que j'entends depuis ce matin, pour moi, c'est ça. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'emprise sociale et qu'est-ce que c'est que l'emprise institutionnelle. Donc j'étais presque déçu de tout comprendre dans les papiers. Je comprenais tout à quelques sigles près. J'ai vu le fameux BCP, le GQG que je ne comprenais pas, qui était dans l'article de monsieur Bach, mais j'ai à peu près tout compris, notamment parce qu'il n'est quasiment pas, et ça c'est un vrai reproche que je fais, quasiment jamais fait référence à des caporaux chefs, des sergents chefs, des adjudants chefs, etc., etc. Et il me semble que nous avons là un fondement absolument capital de l'emprise. En tout cas, pour le demi-sociologue que je suis, on est au centre de cette affaire, on est au centre véritablement de l'emprise. Qu'est-ce que c'est que l'armée? On peut dire en quelque sorte, pour reprendre les termes d'un sociologue qui est connu, qui s'appelle Erwin Goffman, qui parle d'une institution totale. On sent bien dans cette institution militaire, qu'elle soit en action ou pas en action, que la division du travail, qu'elle soit horizontale ou verticale, produit quelque chose qui ressemble à l'emprise. Il y a un sociologue qui s'appelle Louis Pinto qui avait notamment travaillé sur le service militaire. Et il essayait de comprendre ce que ça produit le service militaire, notamment en termes d'emprise sociale. Et qu'est-ce que c'était donc une institution aussi totale que l'institution militaire. Et donc cette institution, c'était en quelque sorte, et comme d'autres institutions, un cadre social où le rôle institutionnel l'emporte sur la personne et l'emporte sur l'individu. Ça veut dire que progressivement, une personne va intégrer, entériner le fait qu'elle doit se comporter de telle ou de telle manière, et que si elle se comporte d'une autre manière, c'est peut-être une indiscipline, c'est peut-être de la subversion. Et que finalement, c'est de manière tout à fait inconsciente, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'exercices, que cette emprise sociale va être créée. Il fait référence par exemple à ce qu'il appelle l'embrigadement. L'embrigadement, c'est le processus de reclassement institutionnel de chaque individu, avec un élément très paroxystique dans ce reclassement institutionnel, c'est la punition collective. C'est le fait qu'un soldat fait une bêtise, et ce n'est pas lui qui va être puni, c'est tout le monde qui va être puni. C'est une manière de désindividualiser, pourrait-on dire, les rapports sociaux. On collectivise à outrance les rapports sociaux. C'est aussi déposséder du temps, de l'espace, l'ensemble des individus. Les gens sont dépossédés de tout. Quand on fait son armée, ceux qui l'ont expérimenté, comme moi, savent qu'à telle heure on mange, telle heure on fait ceci, etc. Les choses sont relativement réglées. On est donc dépossédé, en quelque sorte, de sa personne. Il y a aussi le cas de l'obéissance inconditionnelle. C'est le seul fait que c'est pas tant l'ordre en lui-même qui est important, c'est la capacité d'un officier, d'un sous-officier, de faire obéir, qui est important dans cet ordre-là. Tous ces éléments-là me semblent absolument centraux pour comprendre l'emprise. Et ils sont absents d'une partie des papiers, alors même qu'il me semble, en tout cas pour en avoir discuté avec un certain nombre des contributeurs, qu'ils connaissent tout ça avec beaucoup plus de précision que moi. Et je trouve qu'on a là un cadre institutionnel qui est vraiment à investir pour parvenir à comprendre cette emprise. Pourquoi les gens sont empris, en quelque sorte, dans des conduites, des activités qu'ils vont devoir mener à bien, sans le vouloir, sans le savoir, de manière plus ou moins consciente, etc., mais qui fait qu'ils appartiennent donc à cette institution. Il y a plusieurs hypothèses que nous pourrions évoquer pour comprendre pourquoi ces différents niveaux sont si absents dans les papiers. Il y a beaucoup d'hypothèses ou de thèses qu'on pourrait formuler. La première, c'est une hypothèse peut-être historiographique, c'est à vous à me dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Il me semble qu'il y a une quarantaine d'années, l'histoire des guerres était aussi une histoire militaire par le militaire en quelque sorte. Comme il existe en sciences politiques une histoire du politique par le politique, ou en économie une histoire de l'économique par l'économique, il me semble qu'il y a eu, dans le cadre militaire, le développement d'une vraie histoire du militaire par le militaire. C'est-à-dire des gens qui prenaient beaucoup trop au sérieux ces différents niveaux institutionnels, pour qui finalement la simple description de ces différents niveaux et de cette division du travail militaire, eh bien, elle suffisait en elle-même. Il suffisait en quelque sorte de désigner quelqu'un comme un sergent-chef pour savoir qu'il avait un petit peu plus de pouvoir que le sergent qui était dessous, etc., etc. Il y avait cette croyance-là. Et il me semble qu'on est dans une phase, peut-être, qui est tellement prise dans le refus de ce type d'appréhension qu'on en oublie ce qui me semble être un essentiel, et c'est pas le seul, cet essentiel qui est l'élément institutionnel. La deuxième thèse, que je connais tout aussi mal, donc je vous la soumets, c'est l'idée qu'on retrouve chez Stéphane Audouin Rougeau, vous allez me le confirmer, et Annette Becker, et qui se pose la question, peut-on dire que les soldats étaient ou non des civils en uniforme? Est-ce que le fait d'être soldat les a transformés dans ce processus d'emprise? Est-ce qu'il a vraiment eu lieu, ce processus d'emprise? Est-ce qu'on peut considérer que le processus de soldaïfication, en quelque sorte, a véritablement fonctionné? Est-ce que cette thèse est la bonne thèse ou non? Et la troisième hypothèse, et c'est peut-être la plus sérieuse et en tout cas la plus évidente, c'est évidemment la question des sources. Qu'est-ce qui, dans les sources, nous permet de comprendre ce que sont ces servants-chefs, ces petits adjudants, ces majors, qui généralement ont ramé pendant une carrière entière pour arriver à être major, et qui ont un rapport à cette institution qui est particulièrement forte. Donc j'en arrive à ce deuxième point, qui est celui du rapport à l'institution. Le vrai problème qui se pose ici, c'est de savoir ce que la guerre va faire à cette institution. Qu'est-ce qu'elle fait à cette institution? Peut-on dire qu'elle l'a renforcée ou au contraire remise en cause? On peut dire qu'elle la remet en cause en quelque sorte. Cet échafaudage terriblement esthétique, il me semble qu'il y a des pages de Marc Bloch où il parle justement de ce rapport très esthétique de l'état-major à l'égard de l'armée. Où il parle notamment de l'état-major avec ses dactylos, et ensuite les soldats de troupes, etc., considérant qu'il n'y a entre les deux peut-être pas grand-chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, un rapport assez esthétique. Et il est évident que la guerre bouge ces institutions, qu'elle les remet en cause, qu'il y a des formes de légitimité qui vont s'imposer progressivement, qu'il y a des hommes qui vont se révéler dans la guerre, qui vont se révéler dans des qualités particulières, comme la résistance à la violence, la résistance physique, et qui vont transformer l'échafaudage institutionnel. Donc d'un certain côté, on peut dire que l'institution, elle va se voir imposer une guerre qui va transformer toute l'esthétique institutionnelle. Puis le deuxième élément est contraire en quelque sorte, on peut dire que la guerre va renforcer l'institution. Les solidarités dans ce cadre-là sont obligées et surtout il y a cette idée, pour beaucoup certainement, dépossédés de leur personne dans le cadre institutionnel et cette vocation à s'en remettre à l'institution, une sorte de remise de soi institutionnelle. Quand on ne sait plus quoi faire, et que c'est la mort en quelque sorte, ou peut-être la blessure qui se profile, eh bien, on s'en remet à ce à quoi on peut s'en remettre, quelquefois à Dieu peut-être pour certains d'entre eux, mais souvent à l'institution. Faisons ce qu'on nous dit de faire, puisque de toute façon on ne sait pas quoi faire. Donc, de ces deux points de vue, on sent qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent quand même de discuter de l'évolution institutionnelle, mais en tout cas de garder cette direction qui fait que l'institution doit rester, à mon sens, au centre de cette histoire sociale ou de cette sociologie de l'emprise. Je parlais tout à l'heure du rapport à l'institution. Il y a un beau texte de Pierre Bourdieu et de Monique de Saint-Martin sur des évêques. Il parle notamment des évêques, si je ne m'abuse. Et il revient sur deux trajectoires. On pourrait peut-être évoquer la question des dirigeants communistes et viendrait à peu près au même résultat. Un évêque, qui est quelqu'un qui est issu des milieux populaires, qui a fait le petit séminaire et qui a gravi, marche après marche, toutes les institutions de la bureaucratie catholique ou de la bureaucratie ecclésiale. Et qui est un type pour qui l'institution est quelque chose de sérieux. On ne rit pas l'institution. Il l'a tellement ramé pour parvenir en haut qu'il ne peut pas rire de l'institution et il considère que cette bureaucratie-là, ben, elle n'est pas dérisoire, elle est quelque chose d'extrêmement important. Et puis parallèlement, un autre qui est, comme d'autres l'ont fait en politique, pas du tout passé par le bas, mais il est arrivé par le haut. Un type qui a des origines différentes, qui est devenu archevêque parce qu'il pensait que de toute façon, dès sa plus tendre enfance, peut-être, il pouvait devenir effectivement archevêque. Et quelqu'un qui a ce regard sur l'institution, ou un rapport à l'institution, qui n'est pas tout à fait le même. Il peut, le cas échéant, sourire de l'institution, ou considérer que tout cet échafaudage, tout ce système d'échelonnage très très bureaucratisé en quelque sorte, peut donner lieu à de l'ironie. En tout cas, on peut en rire en quelque sorte, c'est très... On a ici le point de départ d'une sociologie institutionnelle qui permet de faire à la fois une histoire sociale et une histoire institutionnelle de ses rapports à l'institution. Et il me semble, mais je crois que c'est une idée qui trotte depuis bien longtemps derrière la tête des chercheurs du CRIB, qu'on a là tout l'enjeu de pouvoir produire une vraie histoire, non pas tant de la guerre de 14, mais aussi une histoire de l'institution militaire, pour parvenir à comprendre quels sont les différents rapports en fonction des armes, en fonction des grades qui ont pu être développés à l'égard de l'institution militaire. Le discours institutionnel a toujours beaucoup d'avatars. J'ai été très intéressé par ce que dit à plusieurs moments André Bach à propos de l'institution militaire, puisqu'on peut dire qu'il renverse en quelque sorte la perspective. Le discours très institutionnaliste, tel que vous allez pouvoir le voir chez les juristes par exemple. C'est un discours où vous sentez bien que dès lors qu'on est en haut de la bureaucratie, dès lors qu'on est du côté des hauts fonctionnaires, les mots qui sont utilisés sont toujours les mots de la raison. Il y a des objectifs, on se donne des moyens, on réfléchit, on agit, on prend des décisions, etc., etc. Et au fur et à mesure que l'on descend et que l'on va au bas de l'échelle institutionnelle, ce sont plutôt les mots de la combine. Ce sont les mots de la rumeur, on se débrouille, etc. Il y a un sociologue américain qui appartient à l'école de Chicago, comme Goffman, en tout cas plus ou moins, et qui nous dit qu'on aurait probablement tout intérêt de temps en temps, et c'est en quelque sorte un petit peu ce que fait André Bach, de renverser un peu la perspective. Ce que dit notamment André Bach, c'est qu'il insiste, je vais un petit peu forcer le trait, il insiste sur le caractère quelquefois très irraisonné des prises de décision du commandement. Et au contraire, il essaye de rationaliser, à mon sens trop, et c'est pour cette raison que je lui poserai tout à l'heure la question sur le fait de considérer ou non les mutineries comme un mouvement social, d'essayer de rationaliser tous les mouvements de mutinerie ou de contestation, de désobéissance, en quelque sorte. Donc on a là une tentative qui me paraît particulièrement louable parce qu'elle permet justement de renverser la perspective, de renverser l'ordre des mots et de regarder d'une autre manière l'institution. On bascule donc sur cette idée de mutinerie comme mouvement social. Utiliser le terme de mouvement social, ça a été signalé par le rapporteur, ou de grève, etc., à mon sens en tout cas, pose question, et je trouve qu'il n'est pas inintéressant que d'essayer de réinterpréter tout ça à l'aune du mot que j'ai évoqué déjà plusieurs fois, qui est celui d'institution. Sommes-nous réellement dans un mouvement social? Et je pose très directement la question à André Bach, pourquoi avoir utilisé ce mot de mouvement social pour traiter les mutineries? Je me doute de tous les enjeux historiographiques qu'il y a derrière tout ça, mais à la fois je trouve intéressant de se poser la question de savoir quelles sont les conséquences, quels sont les effets de s'interroger en ces termes-là. Pourquoi je me suis beaucoup interrogé là-dessus? Parce que pour moi, un mouvement social, il a à minima quelques ressources propres. C'est-à-dire qu'il fonctionne relativement tout seul. Et la question très factuelle que je voudrais poser, c'est de savoir, elle m'est donnée un petit peu cette idée par une référence qui est donnée par Patrick Facon, je crois, où il me semble que dans les mutineries, il y a des sous-officiers qui ont participé, des sergents, des sergents-chefs, etc. C'est la chose la plus subversive que l'on puisse faire dans une institution que d'avoir du galon, comme on dit, et pourtant d'essayer de la subvertir en organisant une grève ou... pourquoi pas un mouvement social? Moi, il me semblait, d'une manière un petit peu différente, qu'il était extrêmement difficile d'extraire à ce point les logiques protestatives des logiques institutionnelles dans lesquelles les mutins étaient pris. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut développer l'hypothèse que nous sommes plutôt face à un déclin de l'institution militaire à ce moment-là? Un déclin, je pense en particulier aux travaux qui ont été menés par Albert Hirschman sur le déclin des organisations. Et où Albert Hirschman dit assez simplement qu'il y a deux types d'alertes qui peuvent être utilisées par le commandement ou par la direction dans son cas puisqu'il traite essentiellement des entreprises, qui permettent de signaler, d'alerter sur la défaillance d'un certain nombre de mécanismes institutionnels. Le premier type d'alerte, il y en a trois en réalité, je reviendrai que sur deux. Le premier type d'alerte, c'est la défection, c'est les gens qui, tout simplement, choisissent de quitter l'institution. Donc là, ça serait peut-être les déserteurs. Et la deuxième alerte, c'est les gens qui choisissent la prise de parole. Donc, je pose directement cette question à André Bach, et c'est une question qui est à la fois intellectuelle et factuelle. Est-ce que les ressources collectives qui ont permis de rendre collectives les mutineries sont des ressources qui ont été emprises dans l'institution ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait, au sein de ces mouvements, des gens qui avaient des formes, qui pouvaient bénéficier de formes de légitimité qui étaient aussi liées à l'institution qu'ils avaient investie dans le cadre guerrier? Donc, on a là, finalement, en tout cas, c'est la volonté pour moi d'essayer de comprendre, dans la protestation, comment est mise en acte la hiérarchie. Comment les différents types de hiérarchie, entre les sergents, les sergents-chefs, les caporaux, etc., va pouvoir, les différents types de hiérarchie vont pouvoir bouger. Et là, on tombe ici, évidemment, dans une question qui est très, très sociologique. On tombe, par exemple, je citerai pas tout le monde, parce que j'ai oublié une partie des noms et ce à quoi ils correspondent. Je pense au papier d'André Loez. C'est un papier qui est remarquable d'un point de vue méthodologique. Un sociologue s'y retrouve sans aucune espèce de difficulté et qui pose la question de la mise en relation de propriétés sociales, de différentes propriétés sociales, avec le fait d'avoir été mutin ou non mutin. Et il insiste beaucoup sur le fait que la division mutin-non mutin est un petit peu gênante en réalité. Les mutineries, c'est un processus paroxystique en quelque sorte. Il y a, Facon revient beaucoup là-dessus, Patrick Facon dit qu'il y a des formes d'indiscipline, elles sont extrêmement variées. On ne sait plus, à un moment donné, auquel on va devoir attacher ou non de l'importance pour comprendre ce que sont les mutineries. Mais en tout cas, l'intérêt du papier de l'Ouest, c'est ça, c'est qu'il rentre dans la finesse des distinctions sociales. C'est ce que j'ai aimé dans ce papier, c'est que moi j'ai surtout travaillé, ou mon travail de thèse était sur la Nouvelle-Calédonie, et je peux vous dire que même si ça peut nous apparaître comme étant peu important, le fait qu'un dirigeant kanak ait eu son certificat d'études à 17 ans ou à 25 ans, 30 ans plus tard, ça vous fait des différences absolument extraordinaires. Donc, dès lors que vous rentrez dans la finesse sociologique, il y a des petites différences que vous considérez avec votre regard comme étant petites, mais qui constituent autant de distinctions sociales particulièrement fortes. De la même manière, j'entendais ce matin, j'ai peut-être pas très bien entendu ou pas écouté, on entendait les formes d'homogénéité du recrutement social du commandement, par exemple. Là aussi, je demande à voir. Vraiment, je demande à voir. Parce que, alors, l'ENA n'existait pas à l'époque, mais j'imagine aujourd'hui toutes les conséquences que peut avoir une première place à l'ENA ou une 30e place à l'ENA. J'imagine, bien évidemment, assez facilement qu'il puisse y avoir des formes de distinction pérennes, y compris au sein de la hiérarchie militaire. Donc, tout l'intérêt qu'il y a chez l'OS, c'est ça, c'est qu'on rentre aussi dans une finesse sociologique particulièrement intéressante. Et à la fois, il fait ce qu'il peut, l'OS. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'on a. On comprend que dans un cadre historien, la question des sources soit particulièrement importante et qu'il soit beaucoup plus facile de rentrer dans cette finesse-là quand on fait de la sociologie et qu'on travaille notamment sur le très contemporain que quand on fait de l'histoire. Donc, encore une fois, j'y insiste pour la deuxième fois, j'imagine que la question des sources est un élément particulièrement important. Pourtant, je pointe du doigt peut-être un élément qui me paraît sociologiquement important pour traiter justement des mutineries. Un autre sociologue, j'essaye de citer mes sources, qui s'appelle Howard Baker, parle beaucoup des dispositions sociales, en disant que ces dispositions sociales ou les propriétés sociales, on ne doit pas les considérer directement comme des formes de causalité. Une fois qu'on a identifié des origines sociales, on n'a pas forcément construit une compréhension pour savoir pourquoi telle ou telle personne a commis cet acte, s'est comportée de telle ou telle manière. Et Howard Baker nous engage notamment à s'intéresser à des processus et à essayer de transformer les individus en activité. Pour les mutins, c'est extrêmement intéressant justement pour travailler sur l'indiscipline. C'est-à-dire pour comprendre que j'imagine qu'un soldat qui commet un acte d'indiscipline, si petit soit-elle, se retrouve dans une institution comme l'institution militaire, désigné, requalifié en quelqu'un qui a commis un acte d'indiscipline. Le retour en arrière devient particulièrement difficile dans une institution comme l'institution militaire. On considère qu'il est, c'est souvent les mots qui sont utilisés, Louis Pinto en parle, on va dire que c'est un prétentieux peut-être, on va dire que c'est une forte tête. Souvent on dit ça. Quelqu'un qui veut sortir du rang, en quelque sorte. Généralement, ces formes-là de dénonciation sont très très évocatrices, elles permettent de comprendre. Et effectivement, une fois qu'il a commis cette petite indiscipline, avoir refusé sa soupe parce qu'elle est trop mauvaise, etc., ben, il est rentré dans un processus de qualification et de requalification d'un acte en indiscipline. Et je trouve particulièrement intéressant, même si c'est sans doute extrêmement complexe pour un historien, de reconstituer des trajectoires au travers de ce processus ou de ces processus de qualification, requalification en indiscipline. On ne peut pas, à ce moment-là, revenir en arrière. Si un jour vous avez été indiscipliné dans une institution comme l'institution militaire, revenir en arrière, c'est apparaître peut-être comme un traître à la cause. Vous avez été indiscipliné à l'égard de l'institution et tous vos camarades ont vu que vous avez commis un acte d'indiscipline et un acte de résistance. Donc on a là le moyen de comprendre aussi des processus individuels qui pour un historien sont, je le concède, particulièrement difficiles à appréhender. Alors peut-être faudrait-il se tourner vers les tentatives audacieuses et je trouve absolument passionnantes qui sont développées déjà depuis plusieurs années. Je cherche son nom, l'historien qui a travaillé sur le paysan Pinago ou Pinageau au XIXe siècle, d'Alain Corbin, par exemple, où on va utiliser, pourquoi pas, des éléments partiellement fictionnels, où on va se débrouiller comme on peut pour essayer de reconstruire une trajectoire. Il me semble qu'on a là des procédés pour travailler sur le bas, pourrait-on dire, sur le bas de l'échelle institutionnelle, et d'essayer de rendre compte des effets de l'emprise institutionnelle. Pour conclure, travailler sur ces mutineries, pour moi, ça a été être très pris par tous les effets qui sont des effets de rétrospection. Une des grandes difficultés qui est là, c'est de savoir qu'est-ce que les mutins, notamment, savaient de ce que les cadres savaient, et qu'est-ce que ces cadres savaient de ce que les mutins savaient, et de ce qui étaient les mutins, qu'est-ce qu'ils savaient de ce que les autres soldats savaient de ces mutineries, etc. Toute cette dimension qui constitue une espèce de configuration informationnelle à l'intérieur de l'institution. Le travail d'Emmanuel Cronier, pour comprendre ça, il est extrêmement important. Il travaille sur les permissionnaires, et on sent qu'avec les permissionnaires, on a une sorte de mutation informationnelle. C'est eux qui vont transformer tout l'échafaudage informatif propre à l'institution, en quelque sorte. Quelle est la politique qui est menée par le commandement? C'est évidemment une politique de censure, c'est une politique de déplacement des divisions, on extrait un soldat parce qu'il est un mauvais soldat, ou parce qu'il est un mutin potentiel, etc. On gère l'information. Et finalement, les permissionnaires, ce sont justement ceux qui sont cette espèce de petit grain de sable qui va totalement dévarier cet échafaudage informationnel, qui est aussi un échafaudage institutionnel. Et on a là, je crois, avec la sociologie qu'Emmanuel Cronier tente de faire, qui est une sociologie de l'action, une sociologie des permissionnaires, etc., un moyen pour comprendre ce basculement à un moment donné, un vrai basculement, et où le rôle de Paris, semble-t-il, est absolument central. Elle cite notamment, je crois, elle parle en tout cas de l'inquiétude du maréchal Pétain, ne serait-ce qu'à l'égard de Paris, s'ouvrir peut-être la possibilité, je crois, pour faire en sorte que les gens ne passent plus par Paris, pour que les informations circulent moins vite et que le commandement puisse contrôler ou monopoliser les informations. Alors, tous ces éléments me semblent particulièrement intéressants parce que je crois qu'ils permettent de comprendre, peut-être, ce qui fait que les mutineries vont devenir un événement. Cette mutation informationnelle, c'est ce qui va permettre de faire passer l'expérience intime des soldats et des mutins à une expérience qui devient de fait collective et qui fait que ça va nécessairement devenir un événement où les gens se sont révélés avec des mémoires collectives qui, je crois, vont être assez largement bafouées pendant un certain nombre de décennies, mais qui sont quand même une mémoire collective ou une expérience collective. Comment imaginer que cette expérience collective, évidemment, n'ait pas eu d'effet? Comment imaginer qu'il n'ait pas pu avoir une sorte de ce que j'appellerais, je ne suis pas le seul à parler dans ces termes, d'humeur anti-institutionnelle. Beaucoup de chercheurs, de sociologues, d'historiens parlent d'humeur anti-institutionnelle quand ils parlent notamment de mai 68, où on évoque notamment les effets de l'augmentation des effectifs dans l'institution scolaire, sur le fait que des gens issus des classes moyennes et populaires aient pu progressivement intégrer l'institution universitaire. Et qu'ils aient eu l'impression de profiter finalement de l'école de la République, de la volonté républicaine de faire en sorte que les gens d'origine sociale modeste puissent gravir les échelons, profiter d'une ascension sociale, etc. etc. Et c'est ce sentiment qui produit une humeur anti-institutionnelle d'avoir subi un décalage de plus en plus fort entre la valeur espérée et la valeur réelle des diplômes sur le marché du travail. Une humeur anti-institutionnelle, c'est en quelque sorte cette espèce de sentiment de s'être fait avoir. Et la question que je me posais, c'était ça. C'était de savoir finalement que, savoir par rapport à l'écheveau institutionnel tel qu'il s'est construit tout au long du XIXe siècle, et notamment pendant la Troisième République, si finalement, à partir de la guerre de 14, on n'est pas dans une espèce d'atmosphère d'humeur anti-institutionnelle, de décrédibilisation des institutions, qui peut-être permet d'expliquer un certain nombre de choses. Voilà, je vous remercie.